t'invite à continuer notre méditation et notre réflexion pour comprendre les grandes périodes de l'humanité. J'ai eu du mal à préparer celle de ce soir. Parce que celle que l'on va étudier ce soir, c'est celle qui concerne la période dite, la dispensation dite de la promesse. Et ce n'est pas qu'elle soit difficile en soi, mais elle est tellement riche d'enseignements. C'est toute cette période des patriarches. Et c'est tellement riche que c'est difficile de vouloir retenir juste le fil rouge sur ces grandes périodes de l'histoire, tellement il y a de choses à dire, et presque j'entends c'est tellement riche que c'est difficile de garder juste l'essentiel. Mais effectivement, cette dispensation, cette grande période de l'histoire, dite de la promesse, elle commence au chapitre 12. C'est après, vous savez, la dispersion des hommes à Babel. Hein. Vous rappelez, on s'était arrêté à Babel. Les hommes voulaient constituer ce gouvernement mondial et pour briser ces illusions perdues et ces illusions vaines, Dieu confond les langues. Et, ça, c'était au chapitre 11 et on arrive au chapitre 12. Donc, c'est là qu'il y a l'apparition d'un personnage bien connu qu'on verra tout à l'heure. Donc, Genèse, chapitre 12. Et cette période de l'histoire, de la promesse, s'arrêtera à Exode, chapitre 20, où Dieu donnera les lois. Et donc on est dans cette période dite de la promesse qui dure bibliquement à peu près 700 ans. En fait, cette période-là, je vous ai mis trois mots-clés: patriarche, grâce de Dieu, destinée. Et c'est vrai que ce qui caractérise cette période de l'histoire qu'on appelle dispensation de la promesse, ça correspond au temps de ceux qu'on appelle les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et c'est ça, ça représente ça. Alors qu'est-ce qui caractérise un patriarche? Un patriarche, c'est l'ancêtre d'une race. Et plus explicitement, même l'ancêtre d'une nation, l'ancêtre d'un pays. Mais il n'est pas seulement géniteur d'une race, géniteur d'un peuple à venir, il est aussi un commandant, un chef. Mais en l'occurrence, on verra que Abraham a été et est encore aujourd'hui, il est celui qu'on appelle l'homme de la foi, hein, le père de la foi. Il est surtout un commandant et j'ai envie de dire une autorité spirituelle. Voilà ce qu'incarne le patriarche, à la fois porteur en son sein d'une future nation, d'une future race, et également porteur d'une vision spirituelle, d'une direction spirituelle. Alors, trois personnages historiques incarnent cette période, on vient de les citer: Abraham, Isaac qui est son fils, et Jacob qui est le fils d'Isaac. Et puis, de Jacob sortira aussi ses 12 fils. En faisant simple, parce qu'il y a quelques petits détails, et le nom des 12 fils de Jacob donneront le nom des 12 tribus d'Israël. Donc on a Abraham, Isaac, Jacob avec ses 12 fils, et ses 12 fils constitueront les 12 tribus d'Israël. C'est une période historique très riche d'enseignement. On aura, si on a le temps, un petit peu de voir, je ne ferai que nommer quelques situations. Mais c'est vrai que dans cette période-là, on découvre la naissance et la formation du peuple d'Israël. C'est à partir de là que le peuple d'Israël naît. Il y a des vies, il y a des expériences incroyables, il y a des rencontres bouleversantes, il y a des personnages qui marquent l'histoire et qui marquent toutes les religions. Enfin, c'est énorme. Il y a aussi un contexte culturel, social qui est important de comprendre dans cette période-là. Et tout ça, quand on prend le temps de lire toutes ces choses-là, ce n'est pas seulement des événements, ce n'est pas seulement des histoires. On voit aussi comment Dieu parle et de quelle manière Dieu, au travers de ces temps, de ces circonstances, arrive à poser son plan, à diriger et à organiser son plan. Alors, je le redis, hein, on va se concentrer, nous, sur la compréhension des grandes périodes de l'histoire, mais c'est vrai que c'est vraiment des moments très riches d'enseignement. Alors, rappelons-nous, pour revenir à cette notion de la promesse, rappelons-nous que Dieu, dans un premier temps, aborda la question de l'obéissance, puis le rôle et la place de la conscience. Ensuite, il a travaillé sur la notion de la valeur de l'âme, vous savez, avec ce symbole du sang. Et là, il aborde une autre question, c'est la notion de la promesse. La promesse. C'est quoi une promesse ? Ben, c'est un engagement à faire ou à dire quelque chose. C'est ça une promesse. C'est un engagement à faire ou à dire quelque chose. Et alors là, en l'occurrence, je vous invite à ouvrir votre Bible en Genèse chapitre 12. Et on va voir quelle promesse est-ce que Dieu a donné. Il faut bien qu'on se mette là-dedans, dans cette mentalité, parce que c'est véritablement ce qui va imprégner Abraham, ce qui va imprégner Isaac, ce qui va imprégner Jacob. C'est que ce n'est pas une parole en l'air, ce n'est pas une idée. Rappelons-nous, c'est vraiment progressif. Ce n'est pas seulement un ordre, il ne faut pas. Ce n'est pas seulement la conscience d'un bien ou d'un mal. Ce n'est pas seulement une sorte de loi qui met en évidence la valeur spirituelle de l'homme. Mais là, Dieu donne une promesse. C'est-à-dire qu'il est en train de dire quelque chose en disant, mais ça va s'accomplir. Vous voyez les étapes progressives là, de la révélation de Dieu. Et là, Dieu donne une promesse. Genèse chapitre 12, lisons les versets 1 à 3. Et puis après, on lira le verset 7. Donc verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi, c'est une promesse, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. La promesse que Dieu fait à un homme, je te bénirai toi, ta postérité. Et il renouvelle après plusieurs fois, vous pourrez lire, on n'a pas tout lu, mais toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies. Et cette terre sur laquelle tu es en train de marcher là, cette terre, elle sera pour toi, elle sera pour ta postérité. C'est un engagement de Dieu. Et ça, c'est ce qui va marquer véritablement, c'est ce qui va imprégner toute la mentalité d'Abraham, qu'il communiquera après à ses enfants. Toute la raison de vivre, toutes ses motivations, toute la raison pour laquelle Abraham fera une chose ou ne la fera pas, sera toujours motivée, entretenue, cultivée par cette promesse de Dieu. Et on commence déjà à voir combien Dieu est déjà en train de créer là un changement relationnel avec les hommes. Alors, ce qui est essentiel de retenir, à retenir sur cette notion de la promesse, c'est que l'accomplissement de la promesse que Dieu fait ne peut se faire que par la grâce de Dieu et aucunement par la volonté de Dieu, de l'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça qu'on arrive au deuxième point, la notion de grâce de Dieu, c'est que la promesse, et ça va être la leçon qu'on va développer là dans la suite, c'est que la promesse de Dieu ne peut s'accomplir qu'uniquement par la grâce de Dieu et absolument pas par les efforts humains. La preuve, Abraham entend cette parole à l'âge de 75 ans. Avec une femme de 65 ans. Il y a à peu près 10 ans d'écart. Il s'entend dire, tu auras une postérité nombreuse. Si c'était que ça, ça irait. Mais on complique la situation. car cette pauvre Sarah était stérile, elle sera toute sa vie. S'entendre dire à 25 ans, tu auras une postérité nombreuse avec une femme fertile, on peut se dire c'est bon, je vais y arriver. Mais quand on a 75 ans et qu'une femme de 65 qui n'a pas réussi à mettre au monde un seul enfant et s'entendre de dire tu seras l'homme qui bénira toutes les familles de la terre, là on comprend qu'on a besoin de la grâce de Dieu. À tel point qu'effectivement, quand Dieu va renouveler sa promesse en Genèse 18, quand cet ange de l'Éternel va parler à Abraham, il y a, tu sais, l'année prochaine, ta femme sera enceinte. Et oui, elle a déjà 89 ans, elle commence à sourire. Elle rit. Tu as ri? Non, je n'ai pas ri, non. Non, c'est pas moi qui... Si, tu as ri. Et c'est pour ça qu'ils auront effectivement, par le miracle de Dieu, la naissance de leur fils Isaac, qui s'appelle celui qui rit. C'est le sens du nom d'Isaac. Abraham, père d'une multitude, c'est le sens de son nom. Et Isaac rit. Parce qu'à 90 ans, voilà que maman Sarah commence à avoir son premier fils. Mais la leçon, elle est là. C'est que la promesse de Dieu ne peut s'accomplir que par la grâce de Dieu. La promesse de Dieu ne peut s'accomplir que par Dieu lui-même. Que par Dieu lui-même. Alors on a vu, alors on ne va pas revenir là-dessus, mais effectivement c'est là qu'on voit au travers de leur vie qu'ils ont essayé des arrangements humains, mais qui n'ont pas été concluants. Isaac, donc, va venir au monde, et lui aussi sera porteur de la promesse de Dieu. Il connaît la raison de sa naissance. Et Abraham entretient cette promesse, il la communique à son fils. Abraham se marie avec qui? La belle Rebecca. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Le jour où ils se voient, paf! Ouais, Isaac se marie avec Rebecca. Ah, pardon. Qu'est-ce qu'elle est belle! C'est le coup de foudre, hein? Une autre femme stérile! Mais c'est pas possible! Eux qui ont la promesse, première femme stérile, deuxième femme, encore stérile. Et oui, parce que la promesse de Dieu ne doit s'accomplir que par la grâce de Dieu. Que par la grâce de Dieu. Et ça nous apprend, et ça apprend à Isaac, la dépendance à Dieu. Et c'est ce qu'on peut lire en Genèse 25, verset 21, je vous lis le verset pour vous. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et la promesse nous amène à vivre dans la dépendance de Dieu. Uniquement la grâce de Dieu, uniquement la dépendance de Dieu. Et Dieu va renouveler la promesse qu'il fera. Aussi à Isaac, Genèse, verset 26, verset 3 à 4, je vous lis, où il y a encore ça. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Extraordinaire comme promesse. À part que, une fois que maman Rebecca est enceinte, elle a que deux enfants en fait, hein. Ésaü et Jacob, on est loin du compte. On est loin du compte. Mais on arrive déjà aussi dans une grande période de l'histoire. On sait que Ésaü donnera naissance à une peuplade, les Édomites, alors qu'effectivement Jacob, lui, sera donc le troisième patriarche, celui qui va donner naissance aux Israélites. Mais nous sommes quand même bien loin de la multitude promise, quoi, hein, de... Allez, on va compter sur Jacob. Ah, Jacob. Un personnage assez intéressant. Et ce qui marque surtout cet homme, c'est que c'est un homme qui veut la bénédiction. Lui aussi, il a été éduqué par son père dans la vision de la promesse. Et ce qui caractérise Jacob, c'est qu'il la veut, cette bénédiction. Il la veut. C'est pas seulement quelqu'un qui se l'entend comme Ésaü son frère et qui dit « Oh, bon, on verra bien. » Celui qui est même considéré comme un profane. Mais Jacob est celui qui va même, connaît l'histoire, user de mensonges, de tromperies. Mais Dieu va honorer sa démarche. Bien sûr, il n'est pas d'accord avec sa manière de faire. Mais Dieu va voir la foi que Jacob a dans ces promesses-là. Jacob est un homme qui vit avec cette dimension de la promesse divine. Ce n'est pas seulement un intérêt terrestre. C'est que Jacob est animé du désir de voir la bénédiction s'accomplir dans sa vie. Alors bien sûr, les moyens ne sont pas louables, mais Dieu va honorer cet attachement spirituel. Il va l'honorer. C'est lui qui va recevoir la bénédiction, ou non? C'est lui qui va la recevoir. Dieu fera en sorte après de travailler le cœur de Jacob, vous inquiétez pas pour ça. Mais il y a là une leçon spirituelle. C'est que la promesse de Dieu, bien sûr, elle ne peut s'accomplir que par la grâce de Dieu, mais Dieu attend aussi cette foi, non pas cette foi attentiste, mais cette foi désireuse, cette foi qui construit, cette foi qui s'attache, cette foi qui veut véritablement vivre les promesses de Dieu. Et ça, c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous. Seigneur, s'il te plaît. Non, Seigneur. Seigneur. Le Seigneur entend les cris. Et lui aussi. Il devra vivre aussi par la foi. Alors il y a un concours de circonstances qui fait que la femme qu'il aimait lui était remplacée par une autre. Il aimait Rachel. On lui a donné Léa. Oh, mais non, c'est pas celle-là que je voulais. Alors tout compte fait, il va avoir Rachel. Mais là aussi, la femme donc qu'il aimait, on va dire sa femme de cœur, était aussi stérile. Là encore, pour montrer que c'est véritablement Dieu lui-même, c'est son action, c'est sa grâce qui permet d'accomplir la promesse de Dieu. Finalement, Rachel, effectivement, aura un enfant qui s'appellera Joseph. Et lui va connaître une vie incroyable. Il va finir premier ministre d'Égypte, ce qui n'est pas rien. Et par cette situation, il sera le sauveur de toute sa famille et donc le sauveur du futur peuple juif. Et il est conscient de ça. Comprenons bien que les patriarches n'est pas seulement une idée, c'est pas une succession d'événements qui disent « Ah bah tiens, Dieu confirme », mais ils vivent avec cette conscience qu'ils sont porteurs d'une vision. D'ailleurs, à la fin de la Genèse, en Genèse chapitre 50, verset 20, c'est Joseph lui-même qui va dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pourquoi ? Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Donc lui-même a conscience que la situation qu'il a en tant que premier ministre, ce qui a pu lui permettre de ramener ses frères et son père en territoire égyptien, où là il y avait de quoi se nourrir, il avait la conscience que par cet acte, il ne sauvait pas seulement sa famille, un peuple nombreux, ils étaient à peu près 70, mais il savait qu'en sauvant sa famille, il allait sauver le peuple d'Israël. Vous voyez là, la profondeur de cette notion de la dispensation des patriarches, des hommes qui étaient porteurs de toute une future nation, qui n'ont vécu que selon la grâce de Dieu, par la foi. Ils avaient des épouses qui étaient stériles. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, rien ne peut se faire. Et qui étaient chaque jour porteurs, non pas d'une vie personnelle, mais d'une destinée. D'une destinée. Ils avaient une vision spirituelle. Mais si ça nous parle pas à nous, enfants de Dieu, qu'est-ce qui va nous parler, hein? Parce que Joseph, effectivement, ramène toute sa famille en Égypte, comme en Asie, avec son père. Ils étaient à peu près 70, parce que donc il y a là Joseph, il y a son père, il y a les autres frères, il y a sûrement leurs femmes, etc. Donc Genèse 46, verset 27, nous disent qu'ils sont 70. 430 ans après, le peuple sera resté en Égypte. Et pendant 430 ans, lorsque Moïse viendra comme libérateur pour sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël d'Égypte, pour accomplir la promesse, celle d'habiter sur le territoire, Exode chapitre 12, verset 37 nous dit qu'ils sont 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors difficile d'estimer, surtout que dans ces 600 000 hommes, la Bible nous précise qu'il n'y avait pas que des juifs non plus. Mais n'empêche que je pense qu'une première partie de la promesse est faite, une multitude. Alors effectivement, on fait 600 000, s'ils sont tous mariés, on multiplie par deux, s'ils ont deux, trois enfants. Alors les estimations vont de bon train, mais on comprend qu'il y a déjà une multitude. Et Dieu a promis, a accompli cette promesse. Incroyable. Quelques leçons à retenir de cette période de l'histoire. Premièrement, l'impuissance de l'homme. L'impuissance de l'homme. Ça, c'est la première leçon à retenir. L'impuissance de l'homme qui l'amène à dépendre de Dieu. En fait, c'est ça. C'est pas une impuissance de l'homme parce qu'il est nul, mais c'est une impuissance de l'homme qui doit nous amener à dépendre de Dieu. Seigneur, c'est toi qui fais, c'est toi qui... On a besoin de ton action miraculeuse et aujourd'hui, personne ne peut forcer à devenir, à naître de nouveau. Mais Seigneur, si tu agis dans mon cœur, tu peux faire de moi une nouvelle créature, tu peux me sauver. C'est pas moi, c'est pas par mes œuvres, c'est pas par les actions que je peux être sauvé. Mais Seigneur, s'il te plaît, touche mon cœur, change-moi, transforme-moi. Oui, la promesse de Dieu s'accomplit toujours, là aussi. Tout ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Même si ça paraît complètement fou, irréalisable à vue humaine. Le pauvre Abraham, vous imaginez, à 75 ans, s'entend dire tu vas perdre une multitude. Wow. Et les années passent, 5 ans, 10 ans, toujours rien. Il va devoir attendre 99 ans pour voir ce fils venir. Dieu accomplit toujours sa promesse. Amen. Il faut rester dans la foi, dans la dépendance. Nous pouvons dire aussi que cette période se caractérise, je dirais, par une relation plus personnelle entre Dieu et les hommes. Parce qu'on voit que dans cette période-là, les patriarches cherchent vraiment à connaître la bénédiction. Alors chacun s'y prend de manière différente, en temps pas forcément très louable, mais on voit qu'il y a vraiment un rapprochement, une communication qui s'établit. On sent que ces hommes ont la conscience du regard de Dieu sur leur vie. Ils ont conscience qu'il y a une destinée sur leur vie. C'est plus une question d'un Dieu qui est loin, on a notre conscience. C'est une question seulement d'obéissance un peu froide. Ce n'est pas seulement une question d'une conscience d'un bien ou des mal. Ce n'est plus seulement une question d'une loi où il faut respecter la vie de l'autre. On sent que dans cette dispensation de la promesse, il y a un intérêt, une connexion qui s'établit parce que l'un et l'autre sentent qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Il y a une complicité, il y a un rapprochement qui se fait, une compréhension spirituelle de leur vie. Et même cette compréhension spirituelle de leur vocation détermine leurs actions de chaque jour. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. On voit leur détermination, on voit leur espérance, on voit leur confiance, on voit leur obéissance. Et permettez-moi de vous rappeler qu'ils n'ont pas un seul texte. Ils n'ont pas un seul texte. Oui, Dieu apparaît une fois de temps en temps, mais à mon avis, la présence de Dieu, je ne sais pas comment il la vivait. Quand il dit, l'Éternel dit à Abraham, il ne nous est pas donné de précision. Mais je crois quand même, on s'est aperçu que quand même dans chacune de ces dispensations, elles ne s'arrêtent pas, elles se complètent les unes aux autres. Donc on peut comprendre qu'il y a certainement une communication par la conscience de ce qu'ils reçoivent. Après, il y a des manifestations très visibles. Le feu de Dieu descend, il y a des anges qui apparaissent, etc. Mais on sent quand même qu'il y a une révélation spirituelle. À un moment, il y a trois hommes qui s'approchent du campement d'Abraham. Il voit trois hommes. Ben non, lui, il arrive à voir spirituellement autre chose. Parce que quand ces trois hommes se prosternent, ils se prosternent. Quand il les voit, il se prosterne. Il les appelle Seigneur. Donc il y a là une intelligence spirituelle, un discernement spirituel. C'est véritablement quelque chose de très beau à considérer, toutes ces choses-là. La notion de promesse, là aussi, ce n'est pas une question d'une carotte que Dieu mettrait pour faire avancer ces hommes-là, non, non. Cette notion de promesse, selon Dieu, c'est qu'on voit un Dieu qui a un projet, en fait. C'est ça qui est beau à retenir. C'est pas, tiens, je te promets quelque chose, comme nous, on aurait peut-être tendance un petit peu à négocier en mettant des promesses, en espérant que les gens fassent quelque chose. Non, dans la notion de promesse, Dieu a un regard large. C'est qu'il a un projet. Il est en train d'expliquer que vous n'êtes pas le fruit du hasard. Je ne suis pas en train d'avancer des pions comme ça au hasard. J'ai un projet, j'ai une destinée. Il y a une construction, il y a un avenir. Vous allez participer à cette construction-là. Amen. On a 3 minutes. Allez, je vous fais juste quelques énumérations de quelques grands enseignements de cette période. C'est à cette période-là que on a le premier mot, la première utilisation du mot hébreu. Hébreu, ça veut dire celui qui provient de l'autre côté, celui qui traverse. Parce qu'en fait, Abraham, lui, était du côté de l'Euphrate, complètement à droite sur le plan là. Et donc, il a dû traverser les fleuves de cette région pour venir habiter en région de Canaan. Mais on sait que prophétiquement, quelque part, ça nous rappelle également le peuple d'Israël qui devra quitter Égypte et retraverser ces fleuves, non seulement le Nil, mais également après le Jourdain. Donc, hébreu, ce qui passe, ce qui provient de l'autre côté, qui traverse. Israël aussi, c'est à partir de dans cette période-là que Israël est employé, ce qui signifie celui qui lutte avec Dieu. Et ça, c'est Jacob qui aura son nom changé après avoir lutté avec l'ange de l'Éternel. C'est là aussi, dans cette période-là, qu'il y a l'origine du peuple arabe. C'est la lignée d'Ismaël. Ismaël, c'est le frère d'Isaac. Isaac et Ismaël. Donc Isaac sera toute cette branche juive, israélite plutôt, dirais-je. Et puis Ismaël sera toute la branche arabe. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a une promesse, une bénédiction aussi sur ce peuple. Et puis bon, voilà, dans ces des personnages qui sont très instructifs, quand on voit comment Isaac marche exactement dans les mêmes empreintes que son père, en faisant les mêmes et les bonnes et les mauvaises choses, les mêmes erreurs et les mêmes directions. On voit comment Dieu arrive à changer le cœur de Jacob. Il y a des moments qui sont très émouvants, quand on sent Sarah qui ressent la culpabilité d'être l'obstacle de la bénédiction. Ben ouais, parce que toutes ces femmes qui sont stériles et qui sont mariées avec des hommes qui portent une promesse, essayons un peu de se mettre à leur place. C'est à cause de moi que tu peux pas vivre ces bénédictions. Enfin, on lit ça rapidement, mais quand on prend le temps de considérer la vie de ces gens et ce que ça représente, c'est lourd. C'est lourd. On sent peut-être des cris, des soupirs, enfin. Et puis on voit après toutes les stratagèmes de l'époque où effectivement on pouvait prendre une autre femme pour avoir une esclave, pour avoir d'autres enfants, et les rivalités qu'il peut y avoir entre ces femmes. Le contexte social, culturel de l'époque. Et oui, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des lois et des coutumes. Il y avait déjà, on va dire, des lois qui existaient et qui régissaient toute la vie sociale, politique et même religieuse de cette époque-là. Et c'est intéressant, c'est que les patriarches vivaient sous ces lois de l'époque. Ne croyez pas que c'était des hommes un peu mystiques qui avaient leurs propres lois, pas du tout. Ils vivaient selon les lois de l'époque. Et c'est pour ça qu'ils font entendre des choses qui, nous, on dirait, bah non, c'est pas bien, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas fait une erreur, ils se sont pliés aux lois et aux coutumes de l'époque. Ils ne faisaient pas des fautes, ils faisaient ce qui était coutumier, ce qui était habituel, et Dieu ne leur reproche en rien d'ailleurs. Pas une seule fois, Dieu ne fait des reproches. Il y a juste une fois où Dieu va dire, non, ton fils unique, lui, là, pas le premier avec qui tu as eu l'enfant, avec la femme et cela, mais ton fils unique, il rappelle bien que malgré tout, ce que j'ai dit, ça s'accomplit tel que je te l'ai promis, mais il ne fait aucun reproche. On voit aussi, à cette époque-là, Sodome et Gomorre. Et Sodome et Gomorre témoignent bien de la bassesse morale des contemporains de l'époque. Hein. C'était pas non plus tout... On dit, oh, aujourd'hui, c'est dur, mais à l'époque, c'était pas mieux. Hein. Enfin, je vous laisse relire ce qu'on lit à ce moment-là, mais c'était violent. Hein. Et cette période est très riche d'instructions spirituelles. Il y a beaucoup de préfigurations, et de la manifestation de la Trinité. C'est à cette époque-là qu'il y a la circoncision qui après préfigure la circoncision du cœur, la circoncision physique qui préfigure la circoncision du cœur. C'est avec cette époque-là qu'il y a cette comparaison entre Ismaël, le fils de l'esclave, et Isaac, le fils de la femme libre, qui préfigure la vie sous la loi ou la vie sous l'esprit que va développer Paul. Il y a ce passage incroyable du sacrifice d'Isaac qui préfigure sacrifice de Jésus à la croix. Donc on voit cette rivalité entre Saül et Jacob. Saül représentant l'homme charnel, l'homme profane, celui qui néglige les, les, les biens spirituels, et Jacob qui au contraire s'attache et recherche les bénédictions et les valeurs spirituelles. Et puis il y a une multitude de manifestations de la présence de Dieu par des visions, par le feu qui descend du ciel et qui consume les sacrifices. Et il y a ce qu'on appelle les théophanies, ce sont l'apparition de Jésus sous forme humaine ou angélique, voilà, enfin, et tant d'autres enseignements.
Ça, c'est Ésaü, hein,
c'est pas... Ésaü, ouais. Ésaü qui représente l'homme charnel.
Mais pourquoi dire Saul ?
Ah pardon.
Oui,
ouais.
Okay.
Tu as raison. En fait, c'est que ouais, c'est moi qui me suis trompé. J'ai oublié de mettre le E devant Saul. Donc ça fait Ésaü. Tu as raison. Pardon. Tu as raison. Merci beaucoup. Bref, tout ça pour dire que cette période est une période plutôt positive. Contrairement aux autres dispensations, on s'est toujours arrêté sur une déception, une tristesse, un échec. En fait, cette période-là, elle est au contraire très positive. Les patriarches nous donnent un exemple d'attachement à Dieu, d'obéissance, de consécration. Ils ont vraiment une vie portée par une compréhension spirituelle de leur vie, de ce que Dieu a mis. Et quand on lit leur vie, ils témoignent de la vraie foi, la foi qui plaît à Dieu, c'est-à-dire la foi qui nous rend dépendants de Dieu, tout simplement. Amen. Et on comprendra alors pourquoi est-ce qu'il a fallu une autre dispensation, parce que si c'était si bien. Bon, c'est simple à comprendre, hein. Un patriarche pour 70 personnes, c'est facile. Quand le peuple devient 600 000, 1 million, 2 millions, on comprend que malheureusement, les états de cœur ne seront pas les mêmes.